Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, que racontent les programmes de télé-réalité sur nos sociétés, sur nos façons de vivre ensemble? En plus de 20 ans, la télé-réalité s'est largement imposée sur les écrans de télé du monde entier. Big Brother, Love Story, Survivor, The Bachelor, Top Chef, le choix est désormais pléthorique. Les versions s'adaptent aussi indéfiniment aux cultures locales, avec des ressorts universels dans les compétitions. Les téléspectateurs suivent presque en temps réel la vie quotidienne mise en scène de candidats anonymes, leurs rencontres amoureuses, leur capacité de survie ou encore de cuisine. Paul Sansfourche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous publiez une enquête sur Loana Petrucciani, la gagnante star de la première télé-réalité française, Love Story, qui a pile 20 ans. Votre livre, Sexisme Story, publié aux éditions du Seuil. Vous allez nous expliquer comment et pourquoi cette jeune femme de milieu modeste, considérée comme une bimbo fragile, cristallise à la fois les désirs et les détestations du public. Un pays qui a quand même totalisé plus de 11 000 heures de programmes de télé-réalité pour l'année 2019. Également en ligne avec nous, Virginie Spies, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des médias audiovisuels à l'Université d'Avignon. On sera aussi en ligne tout à l'heure avec notre correspondante au Brésil, Sarah Cozzolino, un pays où le succès du programme Big Brother a bien profité de la pandémie et de la panique qui a cloué les familles à la maison devant leur télé. Et puis au Bénin aussi, on donnera la parole à Luc Vaudoué, producteur de l'émission de télé-réalité béninois « Qui est la plus belle ?»
Les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète se part.
Paul Sansfourche, vous étiez adolescent au moment de la diffusion de Love Story. Pour tous ceux qui ont connu à l'époque cet ovni de la télé, un petit moment de nostalgie.
11 célibataires coupés du monde.
Philippe.
Laure.
Aziz.
Loana.
Jean-Édouard.
Julie.
Sylvie.
Kimi,
Fabrice,
Kenza
et Christophe.
Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez.
Ouais. Ça a vieilli ou ça n'a pas vieilli? En tout cas, en avril 2001, il y a 20 ans, des jeunes filles, des jeunes garçons participent pour la première fois en France à une émission qui a déjà fait l'objet de polémiques dans d'autres pays, notamment l'Espagne. Plus de 5 millions de téléspectateurs découvrent en France les candidats qui vivent donc enfermés dans un décor transformé en loft avec des caméras partout, filmées 24 heures sur 24. Pourquoi revenir sur Loana 20 ans après le succès de Love Story, Paul Sansfourche?
Déjà, moi, je trouve que ça marche toujours. Quand j'écoute ce générique, je suis encore dedans. Donc, en fait, ça m'a tellement marqué, moi, à l'époque, que je ne me suis pas tellement posé la question de l'intérêt. C'est que pour moi, il a toujours été là, cet intérêt. Je pense que ça a marqué ma génération. Il faut se rappeler qu'à l'époque, sur les classes d'âge d'adolescents, c'était quasiment 80% en fait, des adolescents qui regardaient le Loft. Donc, ça a été un phénomène absolu. Ça a été, je pense, un marqueur dans la jeunesse. Il ne s'agit pas de dire qu'évidemment, à l'époque, on parlait de génération Stevie. C'était sans doute abusif. Mais en revanche, ça construit quand même tout un imaginaire, je pense, en nous. Et puis, 10 ans avant l'émergence des réseaux sociaux, il y a déjà cette histoire du récit de soi qui arrive à la télévision et de la construction médiatique. Et donc, c'est aussi sur ça que je voulais travailler. Et je pense que la meilleure personne pour ça, c'était évidemment Loana, la grande gagnante, celle qui a éclipsé tous les autres candidats par sa notoriété et qui a un destin, à mon sens, qui était extrêmement significatif.
Sauf que vous avez choisi de raconter l'histoire autrement, c'est-à-dire par la grille d'analyse du sexisme.
Ouais. Oui, parce que moi-même, je me suis rendu compte en fait de mon propre sexisme quand j'ai regardé ce programme-là. Notamment, il y a évidemment la scène de la piscine dont on se rappelle avec Jean-Édouard, qui a été un moment en fait de sexisme global, hein, de sexisme national, où en fait on a énormément jugé cette jeune femme qui avait 23 ans, qui avait finalement juste couché avec un garçon après une soirée un peu arrosée, ce qui est extrêmement banal. Et donc en fait, il y a eu ce moment en fait d'emballement, on pourrait dire, hein, où on s'est mis tous à juger, à traiter cette fille de fille facile. Et j'ai fait partie de tout ça. Et j'avais envie de revenir sur ça aujourd'hui, 20 ans plus tard, avec évidemment ce qu'on a connu du contexte post-MeToo et d'analyser un peu ce qu'on avait vu à l'époque.
C'est finalement ce que vous raconter, c'est l'histoire d'une femme qui toute sa vie est victime de sa condition de femme, bien avant de participer au Love Story. Elle est gogo danseuse dans une boîte de nuit, ce qui ne l'empêche pas de se battre. Quand elle arrive le premier jour de Love Story avec son bustier à bretelles, son sac à dos en peluche rose, ses seins gonflés par la chirurgie esthétique, qu'est-ce que son personnage finalement raconte de la société française à l'époque ?
Alors en fait, elle arrive déjà avec tout un héritage en fait audiovisuel. C'est-à-dire que quand la production détecte Loana, il pense à Marilyn Monroe. Et donc on recherche ce profil-là d'une beauté déjà, évidemment, un physique. La blondeur, ça revient énormément. Et quelqu'un qui va avoir aussi une forme de fragilité, qui va pouvoir toucher les téléspectateurs et téléspectatrices. Donc c'est aussi dans ça, je dirais, dans ce contexte-là qu'elle s'insère. Et elle va évidemment aussi marquer l'ascension télévisuel de la figure de la bimbo. Il faut se rappeler qu'on est à la fin des années 90, il y a eu les top modèles, on a eu Claudia Schiffer, Cindy Crawford qui ont été des superstars, et les bimbos elles arrivent un peu après, elles poussent tous les canons un petit peu plus loin, elles s'augmentent finalement, elles augmentent leur corps, elles le taillent sur mesure, et Loana c'est ça.
Virginie Spies, tout est déjà là en effet dans les codes et les définitions de la télé-réalité.
Ah oui, dès 2001, en effet, hein, comme le dit très bien Paul, tout est déjà très présent et on voit que 20 ans après, le genre continue fortement d'exister et que les jeunes femmes, bien souvent, continuent d'augmenter leur corps et de bien évidemment, malheureusement, les travailler et avoir affaire à la chirurgie esthétique. Donc la question est encore extrêmement présente, ouais. En effet, oui.
Alors ce qui est extraordinaire, c'est de remonter le temps et de revoir des extraits de Love Story où les candidats sont enfermés dans une maison, hein, c'était tout à fait prémonitoire du confinement qu'on a vécu avec la pandémie. Paul Sansfourche, vous avez rencontré à plusieurs reprises Loana, même si vous n'avez pas vraiment pu lui expliquer votre démarche, que vous qualifiez de féministe. Elle est méfiante, elle n'aurait pas compris qu'un homme soit féministe.
Alors je pense que plutôt la méfiance, déjà je pense qu'elle fait bien d'être méfiante puisqu'elle a quand même vécu 20 ans d'exploitation médiatique, donc je m'attendais à cette méfiance-là, elle ne m'a pas surprise. Je ne pense pas que le problème ait été le féminisme, mais plutôt le fait que j'avais aussi envie d'enquêter sur la télé-réalité et ses méthodes de fabrication. Et Loana, elle, de toute façon, elle ne rejette pas le loft, elle le dit toujours, ça a été la plus grande chance de sa vie. Et elle a encore des intérêts, on va dire financier ou en tout cas en termes d'image vis-à-vis de ce média-là, de ces médias-là. Donc je pense que c'est peut-être plus ça qui a gêné. Et puis parce que aussi, je fais une part d'autocritique, au départ quand je l'ai abordé, j'ai été un peu flottant moi sur mon angle de travail. On connaît tous ça en tant que journaliste, hein, on travaille la source comme on dit. Et puis il est arrivé le moment où justement je me suis dit qu'il fallait s'imposer cette honnêteté et j'en parle d'ailleurs dans le livre où je retrace nos différents échanges pour que le lecteur et la lectrice puissent juger d'eux-mêmes de ma démarche.
Quand vous racontez autour de vous, quand vous êtes en train d'écrire le livre, que vous rencontrez Loana, qui à l'époque donc a disparu des écrans radars, on vous pose toujours la même question.
Ouais. Tout le monde me demande en fait si elle a pris cher. Donc pour voilà, c'est de manière un peu familière, hein, mais en gros, quel est l'impact physique de sa vie aujourd'hui sur son visage.
Il y a tout dans cette question.
Oui, voilà, c'est-à-dire déjà on résume quelqu'un à son physique, hein, ce qui a toujours été un peu sa vie. Et puis je trouve que dans cette question, il y a comme une envie de réjouissement derrière. C'est-à-dire qu'on a envie que je réponde « Ah oui, c'est terrible, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est marquée par la vie ?» Parce que justement, quand on a été comme ça adulé pour son physique, je pense qu'il y a un contentement chez les hommes et chez les femmes à constater la chute. À la chute des starlets, je crois que c'est quelque chose qu'on connaît souvent dans notre société. Il y a une sorte de plaisir un peu morbide comme ça. C'est vrai pour Britney Spears, c'est vrai pour d'autres icônes de la pop culture. Et je pense qu'il y a tout ça dans cette question.
Virginie Spies, on reproche toujours finalement tout et son contraire aux vainqueurs de ces téléréalités.
Oui, on leur reproche tout et son contraire, en effet. Et puis, il y a une forme un peu de fascination, sidération. Et puis également, souvent avec la télé-réalité, une forme de voyeurisme qui peut pousser jusqu'au sadisme parfois. Et ce sont des personnes comme Loana que l'on connaît depuis 20 ans, qu'on a l'impression de connaître très bien, ce qui n'est pas le cas évidemment, et ce qui peut être un piège à la fois pour les publics et bien sûr surtout pour la personne célèbre. Et là, on pose la question des people aujourd'hui, en fait, et de ce que décrit très bien Paul justement à l'instant, du fait qu'on se les approprie et qu'on leur demande tout et n'importe quoi, et ce qui peut être un vrai danger hein, et très dangereux. Une personnalité comme FX en a fait les frais et en est décédé.
Alors, évidemment, vous attendez peut-être tous qu'on reparle de la fameuse scène de la piscine. En tout cas, c'est bien Loana qui va faire le succès de Love Story. Et dès le troisième jour, la fameuse scène de la piscine racontée par Jean-Édouard.
C'est la piscine qui se crache.
On va dire que l'autre jour, quand je suis passé dans le confessionnal, j'ai dit que j'appréciais tout le monde et pas quelqu'un. Sauf qu'il y avait une fille que je trouvais trop extravagante. Il s'avère que ce soir, j'étais dans la piscine avec cette jeune fille un peu trop extravagante à mon goût. Et que, voilà quoi, on s'est compris. Mais que c'est vrai que pour moi, elle est quand même toujours trop extravagante, mais... Je pense que ça nous arrive à tous de temps en temps de prendre un peu de plaisir, non ?
En gros, il ne l'aime pas, il a quand même eu envie d'elle. Finalement, cette scène-là, comment se fait-il qu'aujourd'hui la France entière se souvienne encore de cette scène-là, de la piscine avec Loana, Jean-Édouard ? Pratiquement au même niveau que la victoire des Bleus.
Ouais. Ben, c'est de la fabrication télévisuelle. C'est-à-dire qu'avant même Lost Story, il y a eu donc Big Brother, notamment en Hollande. C'est la première édition. Et déjà, dans Big Brother Hollande, il y a une histoire, relation sexuelle évoquée, par un montage d'ailleurs, entre un homme et une femme. Et c'est ce qui va asseoir le succès de l'émission. C'est-à-dire qu'avant, c'est plutôt un programme confidentiel. Et ça devient un succès national. Pourquoi ? Parce que comme en France, c'est incroyablement provocateur à l'époque de montrer un rapport sexuel entre un homme et une femme réel. C'est-à-dire que là, on ne joue plus. Ce sont vraiment deux personnes qui ont une relation intime face à l'écran. C'est du jamais vu, tout simplement. Surtout sur un programme qui passait aux alentours de 19h. Donc c'est incroyable, en fait, à l'époque. Et tout le monde est sidéré par ça. Et tout le monde est capté, en fait. L'attention est captée. Et évidemment, derrière, il y a aussi ce sexisme ordinaire qui est, je dirais, traduit par Jean-Édouard, mais qu'on a tous en nous, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, cette espèce de double standard, Jean-Édouard, bah, il a pris du bon temps, c'est normal, c'est un homme. Loana, en revanche, c'est un peu plus discutable quand même. Il y a cette idée dans la tête des gens que c'est peut-être une fille facile, que c'est pas normal de faire ça à la télévision. Enfin voilà.
Qui est la victime de qui dans l'histoire ?
Alors, pour moi, à mon sens, je pense que Loana, elle est surtout victime des conditions médiatiques dans lesquelles elle a été placée, puisque on avait assuré aux candidats que tout ce qui était de l'ordre de l'intimité ne serait pas diffusé. Alors, la piscine, en réalité, ce n'est pas un acte sexuel. Il n'y a pas ils ne font pas l'amour sur ces images-là. C'est un rapprochement physique, voilà. Et ça, Loana l'a toujours dit. Mais évidemment, le montage suffit. C'est-à-dire que tout le monde se dit « Ah bah, c'est sûr, ils l'ont fait ». Et donc ça suffit. Et puis par ailleurs, après la piscine, il y a des scènes encore plus intimes qui ont été diffusées, qui se passent dans la chambre, ils se sont protégés quelque part. Et là aussi, elles ont été diffusées. Et moi, c'est quelque chose que je raconte dans le livre.
Sur Internet.
Sur Internet, c'est ça exactement. Et évidemment, moi à l'époque, je suis allé les chercher, ces images-là, parce que je pense que beaucoup d'adolescents l'ont fait. Et c'était...
On est au début d'Internet.
On est au tout début d'Internet, c'est-à-dire que le Loft, c'est le premier programme vraiment interactif. Il y a les quotidiennes sur la télé, il y a le câble en 24-24, et il y a aussi Internet où on peut se connecter. Et les images sur Internet, elles ont fuité, elles ont été reprises par des pirates qui les ont ensuite multidiffusées. Et on peut toujours les trouver sur Internet, évidemment. Et ça, c'est effectivement un viol de l'intimité dans lequel la production en démol a évidemment une responsabilité.
Et puis il y a ce fameux confessionnal, Virginie Spies, qui a annoncé complètement l'ego au centre de tout, sur les réseaux sociaux ensuite, Instagram, TikTok. Là aussi, c'est prémonitoire.
Oui, c'était complètement prémonitoire, en effet, le confessionnal. Et c'est bien expliqué dans le premier Loft que cet endroit, ça va permettre aux candidats de pouvoir se confier et vraiment tout dire. On va tout voir, on va tout savoir. Donc, on va accéder aux plus grands secrets. Et l'une des grosses différences avec aujourd'hui, il est vrai, c'est que les premiers amateurs, finalement, c'était ceux du premier Loft, dont Loana, comme on vient de le dire à l'instant. Aujourd'hui, tout ce qui est... Enfin, les gens qui rentrent dans ces émissions de télé-réalité sont prêtes et sont quasiment déjà des professionnels. professionnels, en fait. Ils savent ce qu'ils vont faire et ils savent jusqu'où ça peut aller selon ce qu'ils vont dire. Hein. Donc, tout a été modifié. Et en effet, 10 ans après le premier loft, et donc il y a 10 ans, arrive Instagram et donc avec voilà, tout ce que ça peut comporter, ce qui est une sorte de continuité aujourd'hui de la télé-réalité, finalement, où ceux qui vont rentrer dans les émissions de télé-réalité qui ne sont pas encore connues sont parfois déjà célèbres sur les différents réseaux sociaux. Ouais. Donc, que ça se répond l'un à l'autre.
Alors, vous parliez de Loana, victime du sexisme dans une société française il y a 20 ans. Pourtant, 10 ans plus tard, on a Nabila au confessionnal des anges de la télé-réalité et son fameux halo qui fera sa destinée.
Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui n'avaient pas de shampoing. Halo. Non mais halo quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Halo. Halo. Je sais pas, vous me recevez ? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux.
10 ans après, une nouvelle bimbo qui délecte la France. Alors, rien n'a changé ou pas, Paul Sansfourche ?
Alors, je pense que tout a changé et comme toujours, en restant avec quelque part quelques marqueurs quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, les jalons de la bimbo, ils sont déjà posés en 2001. La grosse différence avec Nabila, c'est qu'elle a toute cette expérience, ce retour sur expérience de 10 ans de télé-réalité. Et elle arrive avec quelque chose, avec un projet finalement. Elle a un projet de personnalité à imposer, à faire connaître. Et quelque part, cette phrase, elle est pas forcément calculée dans son effet, parce qu'elle, sans doute, elle ne s'attend pas à un tel impact.
Elle est dans la spontanéité. D'ailleurs, voilà. C'est l'or recherché par la télé-réalité, la spontanéité, malgré tout.
Mais bien sûr, mais sauf que dans ces programmes des années 2010, on est vraiment dans une logique très différente. Il n'y a plus d'enfermement. Les caméras ne sont pas cachées. Ce sont des caméramans qui suivent les candidats. Et bon, là, elle est dans un confessionnal hein, quand elle dit cette phrase-là. Mais elle sait qu'elle a un personnage à jouer, elle a un personnage à incarner, et elle le joue à fond. Et c'est toute la différence avec Loana qui arrivait avec une spontanéité totale et intacte, et finalement tous les autres lofters d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, il y a quand même vraiment un changement d'échelle, un changement de logique, et on est rentré, grâce à Nabila, dans l'ère de la télé-réalité professionnalisée.
Ouais, mais il y a toujours quand même cette ambiguïté, ce mépris de classe, Virginie Spies, pour ces vainqueurs qui viennent d'origine, qui sont d'origine modeste, qui ne s'en cachent pas. On va finalement les récompenser parce qu'ils sont méritants, pour plein de raisons, mais il y a quand même une attitude très ambiguë par rapport à leurs origines sociales, non ?
Oui, et puis un vrai mépris global, en fait. Hein. Moi, je le compare, je travaille également sur la presse people. On peut comparer ça au mépris qu'il y a envers la presse people, finalement. Hein. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui savent qui couchent avec qui, si je puis me permettre. J'ai les célébrités, et pourtant, personne ne l'achète. C'est assez étonnant, tout de même. Et donc, il y a vraiment un mépris de classe, en fait, à l'égard de ceux qui y participent et de ceux qui regardent également ces émissions. Or, Nabila ne vient pas d'un milieu très, très modeste. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, elle n'est jamais revendiquée comme telle, mais il y a un véritable mépris qui dirait, les gens qui regardent ces émissions, finalement, sont des personnes qui n'ont pas accès à la culture, et c'est une culture qui est déplorable aujourd'hui. Or, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Il y a des gens qui regardent la télé-réalité et qui lisent aussi des livres.
Hein. Et ça d'ailleurs, vous allez rencontrer Paul Sansfourche, un ancien monteur, qui vous raconte que tous ces programmes, évidemment, sont archimontés, qu'on raconte une histoire fausse sur ces candidats pour qu'ils incarnent finalement des stéréotypes. Et il dit lui-même des candidats dont on s'aperçoit très vite sur Love Story qu'ils sont tous sauf bêtes.
Oui, non, mais il faut se rappeler de l'incroyable normalité des lofters par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans la télé-réalité. Des jeunes gens, évidemment, mais qui étaient insérés dans la vie professionnelle. C'était des gens qui avaient une vraie personnalité et une vraie vie, entre guillemets, qui n'étaient évidemment pas des professionnels de la télévision. Et le montage, le jeu du montage, et finalement, pour créer un récit, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut tout un tas de rebondissements, d'ingrédients, il faut de la caricature, il faut du stéréotype, parce que c'est ça qui va attirer le téléspectateur. Et donc, on en fait quelque part des objets télévisuels, on a une vraie personnalité et on va en créer un personnage. Et ça, c'est arrivé à tous les lofters. Et je pense que là aussi, on retrouve cet ingrédient de racisme de classe, parce que qu'est-ce que ça permet ? Ça permet à la fois de l'identification pour les téléspectateurs d'origine populaire, mais ça permet aussi de rire, de se moquer pour tous ceux qui peuvent se sentir supérieurs. Et donc, c'est aussi ça, le travail du stéréotype. À contrario, on a aussi Laure dans Loft numéro 1, Laure Delattre, qui, elle, incarne la bourge et qui va être détestée pour ça. Donc, en fait, on tape un peu sur tout le monde, sur toutes les classes. Chacun peut s'y retrouver et chacun va avoir, finalement, va trouver le sel qu'il vient chercher dans ce programme-là.
La fameuse Laure que vous avez rencontrée, que d'ailleurs, vous décrivez comme jeune fille plutôt sympathique, ouais, hein, ouais, tout en étant la bourgeoise de service. Alors, quand vous dites des candidats ultra normaux, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que Loana, c'est quand même une fille qui est capable de se lever à l'aube pour aller se maquiller, se recoucher après auprès de son fiancé du moment pour qu'il la trouve plus belle au réveil. En 70 jours, elle va passer de petite fille victime de la violence de son père alcoolique, des abandons de sa mère, victime de ses échecs scolaires, à une machine à cash du début des années 2000. Et vous dites d'ailleurs, quand elle est recrutée à 24 ans par l'équipe de production de Love Story, c'est une fillette atteinte de stress post-traumatique et personne n'a rien vu, pas même les psychologues qui sont une armée sur cette production.
Ouais, bah alors de l'aveu même de certains membres de la production de l'époque, ces psys ne servaient pas forcément à grand-chose. C'est-à-dire qu'on a fait une sorte d'armée, on a placé une armée de psys pour contrôler les dossiers, mais c'était un peu du décorum. Ensuite, il y a eu des entretiens personnalisés sur les derniers finalistes avec des psys, mais Loana avait déjà fait 2 tentatives de suicide avant de rentrer dans le loft. Ça n'a pas été détecté dans l'entretien, donc on va dire que ça n'a pas forcément été un travail très très poussé. Mais ce que je voulais dire par normalité, c'est qu'effectivement, ce sont des gens qui ont un parcours, on est venu les chercher pour ça. En revanche, ils n'ont pas encore cette exubérance et ce travail de leur personnalité, de la personnalité, comme ça viendra par la suite.
Mais elle arrive, elle a une vie brisée, d'abord parce qu'elle est née petite fille. C'est ce que vous racontez quand même.
Oui, alors effectivement, cette notion de stress post-traumatique, c'est pas facile à dire, elle m'est apparue en fait en travaillant sur sa vie, sur son parcours. Donc Loana est née dans une famille marquée par la violence intrafamiliale, les violences conjugales pour sa mère, les violences de son père envers elle. Et évidemment... Ça, c'est pas connu à l'époque du loft.
À 11 ans, elle fait la cuisine pour son père.
Exactement, elle fait la cuisine pour son père. Sa mère est partie parce que justement, elle ne pouvait plus supporter les coups. Et Loana devient une femme de substitution, en fait. Et donc, elle est la colère de son père envers sa mère. Elle se reporte sur Loana, elle est frappée. Elle travaille tous les jours pour son père dans la domesticité totale. Et quand elle arrive dans le loft, finalement, ce sont des vacances pour elle. Elle le dit très bien. Et en même temps, elle est rattrapée par des rêves horribles qu'elle fait dans le loft et qu'elle m'a raconté et qu'elle raconte aussi dans ses autobiographies. Et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, ces rêves-là qui sont d'une violence incroyable et qui disent en filigrane finalement toute la violence qu'elle a reçue, bah, effectivement, ce sont des rêves d'un enfant qui a été marqué par la dureté de son enfance et de sa vie.
Et évidemment, ce n'est pas la télé qui peut la protéger, pas même les médecins qui vont la suivre ensuite pendant des années. 20 ans après Love Story, il y a eu la vague MeToo. Alors, est-ce que le sexisme est toujours le moteur de la télé-réalité, cette fiction du réel, pour reprendre l'expression, drôle d'expression employée à l'époque par la société de production qui présentait ce tout nouveau programme à la presse. On en parle avec vous, Paul Sansfourche, Virginie Spies, on entendra aussi notre correspondante au Brésil, où le succès de Big Brother a bien profité de la pandémie et de la panique qui a cloué les familles à la maison devant leur télé. Ce sera juste après L'homme idéal, Bertrand Burgala, il n'y a pas de raison.
C'est l'été, saison des concupiscences, le soleil te réchauffe les sens, des tentations bronzées te font l'enfer. Moi serein, je regarde la mer. Oui, car l'homme idéal, c'est moi. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Le sera dit, ce serait toi. Mon fendu l'occiput, des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite surveiller. L'homme idéal, c'est moi. Il fallait désigner quelqu'un qui en profite. L'homme idéal, c'est moi. Jacques a dit, ce serait toi.
Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant?
Souvent, on me demande mes trucs, mon secret. En un mot,
comment je fais pour être ce que je suis? Je réponds généralement, si je le savais, du coup, je ne le serais pas.
Ah bon?
Eh oui, forcément. Et je vous laisse cogiter à ça.
Toutes tes amies ont balancé des porcs. J'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici, on fait de l'art seulement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. Longtemps cherchais quelqu'un qui m'aimait. L'homme idéal, c'est moi. Tout de suite, ce serait toi. Because l'homme idéal, c'est moi. La vie est courte, donc ça vaut et profite. L'homme idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui d'autre à part toi.
7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes au cœur des émissions de télé-réalité. Qu'est-ce qu'on lit de la société dans laquelle on vit? Que raconte-t-elle aussi du sexisme? C'est l'objet de votre livre, Paul Sansfourche. Vous publiez une enquête sur Loana Petrucciani, la gagnante star de la première télé-réalité française, Loft Story, il y a 20 ans. Votre livre s'appelle Sexisme Story, paru aux éditions du Seuil. On discute aussi également avec Virginie Spies, qui est spécialiste des médias audiovisuels à l'Université d'Avignon. Elle est en ligne avec nous. Et puis, on donnera la parole tout à l'heure à un producteur d'émissions de télé-réalité qui s'appelle Qui est la plus belle au Bénin. C'est Luc Vaudoué qui sera en ligne avec nous. Mais tout de suite, un message d'un voisin qui a posté sur notre ligne WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Mohamed à Port-Gentil.
Oui, je n'aime pas la télé-réalité car elle parle trop de la vie privée des gens. Et en plus, ce qui est dit est sans intérêt dans la vie quotidienne. Et rester devant l'écran, ça fait ralentir dans vos activités et vos projets d'avenir. Et en plus, la télé-réalité, quand tu la regardes, tu n'es pas du tout satisfait de ta propre vie. Tu vas te dire que pourquoi Dieu ne m'a pas donné ça, pourquoi Dieu ne m'a pas fait ça, voilà. Du coup, tu vas prendre la cause, tu vas mettre ça sur quelqu'un d'autre.
Voilà, quelqu'un qui préfère se tenir éloigné des émissions de télé-réalité, Virginie Spies. Il y a une étude d'un organisme caritatif britannique qui lutte pour la protection de la santé mentale, qui a mené une enquête auprès de 4000 jeunes britanniques et qui a montré qu'un quart déclarait que regarder des émissions de télé-réalité les complexait.
Oui, ça peut se comprendre. Après, les usages, tout dépend ce qu'on en fait. Hein. Tout dépend ce qu'on fait des usages des médias. C'est comme manger tous les jours la même chose. C'est pas non plus bon pour la santé, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, moi, je veux dire condamner en fait ces programmes comme ça en disant des choses comme ça. Mais c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. On peut très bien se dire, enfin, si on interdit ces programmes aux plus jeunes, si vous voulez, ils vont avoir envie de les regarder. Alors que les déconstruire avec eux ou quand on est adulte, réfléchir un peu aux pratiques que nous on avait quand on était plus jeune. En discutant avec les plus jeunes, c'est peut-être un petit peu plus intéressant tout de même. Donc voilà, il ne faut pas passer 10 heures devant ces programmes, c'est évident, mais pas devant les infos non plus par ailleurs.
Surtout en ce moment, oui. Ismaïla est à Nouakchott en Mauritanie. Il nous poste le message suivant. Après une journée de travail pour lâcher prise, moi je regarde des émissions de télé-réalité comme La Famille Kardashian ou Koh-Lanta. Ça me fait du bien, j'apprends des choses de la vie, j'aime la façon dont les personnages mènent leur vie. Ça me fait croire que ma vie à moi aussi peut changer un jour. La télé-réalité, c'est ma vie imaginaire. Ça serait une fenêtre sur le monde, du coup, Paul Sansfourche ?
Je suis assez d'accord avec Virginie. Je crois que globalement, c'est du divertissement. Donc, ça remplit cette fonction-là de divertir les téléspectateurs et téléspectatrices. Et ce n'est pas quelque chose de négatif en soi. Ces programmes-là, ils véhiculent effectivement un certain nombre de valeurs dont on peut parfois, qu'on peut parfois critiquer, qu'on doit interroger. Mais ça remplit effectivement cette fonction de rêve que dit très bien cet auditeur, parce qu'il y a quelque chose de magique dans le pouvoir de la télévision, dans le pouvoir de la célébrité, c'est de pouvoir tout changer en un claquement de doigts. C'est ce qui est arrivé à Loana et c'est ce qui fait aussi que ça crée la fascination du public.
Ouais, alors, rêve ou complexe, c'est à vous de décider. Et tout de suite, on va retrouver notre correspondante à Rio de Janeiro, Sara Cozzolino, pour parler de la folie Big Brother au Brésil. On écoute un extrait de cette télé-réalité.
Bonjour, Brasil.
Macho, isso.
Sejam bem-vindos a uma edição histórica do Big Brother Brasil.
Ouais, c'est la version brésilienne de Big Brother, évidemment beaucoup plus dansante. Pour rappel, Big Brother, donc, c'est l'émission qui a été créée aux Pays-Bas il y a plus de 20 ans, qui a inspiré le Lost Story en France. Au Brésil, il y a évidemment la démesure du pays, avec plus de 40 millions de téléspectateurs en moyenne. La saison 2021 a eu un succès fou en pleine pandémie. Sara Cozzolino, dites-nous, comment expliquer ce phénomène ?
Oui, eh bien Emmanuel, ici l'engouement pour BBB, comme on l'appelle, est comparable à celui des matchs de foot. Les rebondissements de l'émission qui est diffusée 7 jours sur 7 après la télénovela du soir sont commentés sur tous les réseaux sociaux en temps réel, font l'objet de discussions en famille, au travail, entre amis. Certains youtubeurs ont même fait fortune en se spécialisant dans l'analyse des émissions. Alors pendant la pandémie, la maison la plus surveillée du Brésil, comme on la surnomme, a évidemment encore plus attiré. Hein. C'était l'édition la plus longue avec 100 heures d'émission et il y a eu 5 millions de téléspectateurs de plus que l'an dernier. Tout ça pour le plus grand bonheur du géant Globo parce que la chaîne de télévision avait été obligée de rediffuser des telenovelas à cause de la suspension des tournages et que les matchs de foot sans public attirent quand même beaucoup moins. Alors avec les sponsors de grandes marques comme Samsung ou McDo et les 30 secondes de publicité facturées à 500 000 reais, l'équivalent de 77 000 euros, la chaîne en a bien profité cette année.
Ouais. Alors, Big Brother version 2021, de plus en plus de candidats noirs ou LGBT, ça veut dire que l'émission tente de représenter la pluralité du Brésil à travers la télé-réalité ?
Oui, exactement. Pour la 21e édition, il n'y a jamais eu autant de participants noirs et de participants LGBT. Alors évidemment, il y a toute une stratégie marketing hein, derrière. Pendant près d'un an, plus de 200 personnes de la chaîne sont chargées de sélectionner les candidats. Le but étant de trouver l'équation qui attisera l'amour et la haine des téléspectateurs qui participent à l'émission en votant. Alors, une moitié des participants est composée d'inconnus, ceux qu'on surnomme les bipocas, les pop-corn en portugais, et l'autre de célébrités, les camaroches, qui pourrait se traduire par les loges VIP, comme la rappeuse Carol Conca ou le chanteur Projeta. Mais cette année, la plus grande diversité a permis de mettre des sujets sur la table, comme le machisme, le racisme ou encore la LGBT-phobie, dans ce pays extrêmement polarisé depuis l'élection de Jair Bolsonaro.
Et la gagnante de cette année, Sara Cozzolino, est passée de l'anonymat à la célébrité. Elle a désormais près de 30 millions de followers. Qui est-elle exactement ?
Alors, elle s'appelle Juliette Freire, elle a 31 ans et on la surnomme désormais la Namoradinha do Brasil, la petite copine du Brésil. Elle a même eu droit à sa chanson « Je t'ai vu, je t'ai aimé » chante Carlinhos Brown dans sa nouvelle musique « Juliette mon amour » avec « Mon amour » en français.
Juliette mon amour, tu vois globe neige, I love you.
Et si Juliette a remporté plus de 90% des votes du public, c'est parce qu'elle représente un certain Brésil auquel se sont identifiés les téléspectateurs. Originaire du Nord-Est, avec un accent très marqué qui lui a valu des moqueries et une forme d'exclusion de la part des autres participants. Elle vient d'un milieu modeste, c'est la seule de sa famille à avoir fait des études. Elle a perdu son logement pendant la pandémie, mais maintenant sa vie va changer. En plus du prix de l'émission, 1,5 million de reais, l'équivalent de 220 000 euros, elle gagne surtout des followers sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, et les contrats publicitaires qui vont avec. Elle a déjà une ligne de vin, de lingerie, des poupées et des jeux de portables à son nom.
Ouais. Beaucoup plus d'argent que le Love Story il y a 20 ans. Merci beaucoup Sara Cozzolino, correspondante à Rio, Paul Sansfourche. Loana, à l'époque, c'est la petite niçoise aussi qui monte à Paris. Benjamin Castaldi qui la moque parce qu'elle est très légèrement vêtue en lui disant bah, « Vous savez qu'il pleut de temps en temps aussi à Paris. » Et puis elle, elle ne se démonte pas. Elle dit « Ah oui, mais moi j'ai toujours chaud. » Ça oui, y est, le ton est donné, quoi, dès la première phrase.
C'est ça. Et ça fait quoi ce que vient de dire votre correspondante ? C'est effectivement la donnée de l'accent de cette France, cette autre France provinciale, sudiste. Ça joue complètement à la fois en faveur et en défaut les faveurs de Loana. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois, elle est un peu exclue au sein du jeu et elle est moquée, mais à la fois, ça crée tout son capital sympathie. Et cette scène, effectivement, du premier soir du Loft où Benjamin Castaldi se moque un peu d'elle, voilà, en la faisant un petit peu passer pour la sudiste écervelée, elle est très représentative du personnage Loana, puisqu'il y a à la fois cette donnée bimbo dans l'archétype de Loana, mais il y a aussi cet aspect sudiste un peu cagole.
La cagole,
voilà,
c'est ça.
Qui va aussi s'imposer très fortement sur les écrans hexagonaux.
Ouais. Virginie Spies, une autre réalité sociale culturelle finalement au Brésil, et pourtant on a l'impression qu'on retrouve toujours les mêmes ficelles finalement.
Oui, en effet, on retrouve les mêmes ficelles. Ce sont un peu les ficelles du conte. Hein. C'est la morphologie du conte, comme dirait l'autre. Hein.
Cendrillon.
Cendrillon, exactement. C'est Cendrillon, voilà, qui arrive de nulle part, entre guillemets. Et là, c'est la télévision qui affirme son pouvoir. Le pouvoir de changer le monde, le pouvoir de changer les gens, de faire leur bonheur, d'aller les chercher là où ils sont. D'identifier le fait que ce soit, qu'il soit malheureux, qu'il soit triste, qu'il soit pauvre, enfin, tout ce que ça peut comporter. Je parle de pensif, hein, je ne dis pas que c'est la réalité, et de montrer l'extrême pouvoir de la télévision qui serait de faire des célébrités, donc un peu plus long que ce que promettait Boirol, finalement, un peu plus d'un quart d'heure, enfin pas pour tout le monde, mais pour certains ou certaines, et justement de complètement les changer. Et ça, c'est une part de rêve, en fait, hein, comme le disait tout à l'heure l'auditrice de Port-Gentil, justement.
Mais il y a quelque chose de finalement irréductiblement démocratique dans une télé-réalité. Réalité malgré tous les atroces stéréotypes que vous avez démontés, non, Virginie Spies?
Oui, il y a quelque chose de démocratique, en effet, en tout cas une promesse de démocratie. Parce que j'ai justement l'institution télévision qui se met depuis un bon nombre d'années un peu à la place, je dirais, de l'État. Alors je vais un peu vite, hein, mais je sais ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle se met souvent à la place de l'État au sens où elle prétend changer la vie des gens, faire leur bonheur, comme je viens de le dire, les sortir de leur situation. On voit aussi, vous en parliez au début, hein, des émissions de télécoaching qui vont apprendre à élever les enfants, à devenir, je ne sais pas, à s'accepter comme on est, à faire à manger, à trouver de l'argent pour réparer sa maison, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des institutions qui essayent de nous faire une promesse, en effet, que les institutions qui sont en principe faites pour ça ne peuvent pas tenir.
Notamment pour le Brésil.
Ne pourraient pas tenir.
Notamment pour le Brésil, c'est intéressant de noter qu'une télé-réalité s'affranchit de l'homophobie du président brésilien lui-même et de sa mouvance politique. Alors, on va se diriger vers le Bénin, si vous le voulez bien. On est en ligne avec Luc Vaudoué, producteur de l'émission de télé-réalité béninoise. Qui est la plus belle? Bonjour Luc Vaudoué.
Bonjour Madame Bastide, c'est un plaisir pour moi d'être invité sur votre émission 7 milliards de voisins.
On est ravis de vous accueillir.
Nous sommes tant d'Africains à suivre, avec délectation.
Oui, mais pas autant que qui est la plus belle, dont on va écouter tout de suite d'ailleurs la bande-annonce.
Tu me fais rêver. Veux-tu changer ma vie, bébé? Lumière dans le noir, tu brilles comme un miroir. Qui est la plus belle? Wallahi pour moi, c'est toi. Qui est la plus belle? Wallahi pour moi, c'est toi. Femme intelligente.
Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.
Voilà, première télé-réalité béninoise. C'est la 5e édition maintenant, Luc Vaudoué.
Exactement. Nous avons fini la 4e saison en début de cette année. On est en préparatif de la 5e édition qui va démarrer au dernier trimestre de l'année.
Le sujet, c'est clair. Hein. Qui est la plus belle? C'est net, dès le générique. Le public avait l'habitude auparavant de regarder des programmes qui n'étaient pas spécifiquement béninois, ni même d'ailleurs forcément spécifiquement africains. Hein. Les Béninois regardaient beaucoup de télé-réalités françaises notamment.
Exactement. Disons que la pratique était même que les gens n'aimaient pas beaucoup les programmes béninois, qu'ils trouvaient malsains, pas trop pertinents, etc.
Ouais.
Et puis, donc, ils étaient très accros de programmes occidentaux comme Secret Story, Koh-Lanta, etc. Et bien moi qui est la plus belle a été un programme qu'on a lancé comme ça, qu'on a réfléchi, sur lequel on a essayé de mettre des codes un peu différents, et il faut croire que ça a bien marché. Les gens, ils aiment bien le suivre, et ça, on est bien fiers d'avoir initié ceci.
Des codes différents, à commencer par des canons de beauté qui vont à l'encontre des canons de beauté occidentaux.
Exactement. L'idée était justement de faire un concours de beauté qui ne respecte pas les codes habituels. Parce que les gens avaient transposé les codes occidentaux pour faire des concours de beauté dans les pays africains, en occultant le fait qu'en fait, en Afrique, quand on dit une femme, elle est belle, ce n'est pas forcément parce qu'elle fait 1m80, parce qu'elle est très mince, etc. C'est parfois pour des choses aussi hétéroclites que son savoir-faire, son savoir-être. Et donc, nous, on a surfé sur ça. Et le public, il s'est retrouvé donc avec une émission qui lui projetait une image qui lui ressemble, des codes qui correspondent à ce qu'il dit tous les jours, des valeurs qui correspondent à celles qui sont les siennes. Et du coup, je pense que ça ressemblait un peu plus à leur quotidien.
Vous semblez dire que les codes au Bénin, c'est plutôt du savoir-être que des canons de beauté physique. En réalité, vous avez remplacé d'autres canons de beauté physique par les canons de beauté qui ont distingué, par exemple, Loana, taille très fine, une silhouette relativement fine avec, je le rappelle quand même, une forte poitrine. Les Béninois, ils avaient envie de voir des femmes africaines, bien en chair, avec de belles rondeurs.
Exactement, c'est bien cela.
C'est
bien
cela. Bon, c'est pas seulement le savoir-être quand même. Hein.
Ce n'est pas seulement le savoir-être. D'ailleurs, ce n'est pas principalement le savoir-être. La beauté, où qu'elle soit, même en Afrique, c'est d'abord beaucoup du physique. Et ils étaient bien contents de retrouver, comme vous l'avez dit, des femmes en chair, des femmes rondes,
oui. Mais alors,
des femmes parfois menues.
Jusqu'où et comment vous décidez d'utiliser les clichés de la femme africaine, c'est-à-dire aussi une femme qui est capable de tenir sa maison, de bien cuisiner. Vous avez introduit, ceci dit, des épreuves de sport. Comment vous avez fixé le curseur des stéréotypes? Parce que vous êtes bien conscient de jouer sur les stéréotypes quand même.
Mais oui, je suis tout
et
à fait
et la caricature.
Et évidemment, on jouait un peu quand même sur le fil du rasoir. Il ne fallait pas non plus renforcer les stéréotypes qui cliveraient la société. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des sondages. Et le public nous a, enfin souvent les gens nous disent les codes qui leur plaisent, nous disent les épreuves ou les facteurs, comment on va dire, les critères.
Bon, finalement, comme pour la fabrication d'un bouillon cube.
Ben voilà, exactement. On a fait le test consommateur pour identifier les critères à évaluer.
Il y a à la fois une demande de tradition et de modernité, c'est l'éternel compromis introuvable pour vous?
Oui, c'est bien cela, vous avez bien compris. C'est comment trouver le juste milieu entre ces deux extrêmes de l'Afrique. L'Afrique est très hybride aujourd'hui, comme vous le savez. On est tiraillé à la fois entre les traditions qui ont la vie dure et ce modernisme un peu excessif de l'Occident.
Il
faut trouver une troisième voie.
Ouais. On n'est pas contre l'épreuve du maillot de bain, même si on va faire semblant de vilipender l'épreuve du maillot de bain.
Exactement. Et donc, l'épreuve du maillot de bain, les gens nous critiquent beaucoup dès qu'on sort cette épreuve-là. Mais en vérité, ils sont nombreux à être derrière leur poste de télévision parce qu'ils aiment bien quand même voir ces choses qu'ils critiquent.
Merci à vous, Luc Vaudoué, producteur de l'émission de télé-réalité béninoise. Qui est la plus belle, Paul Sansfourche? La télé-réalité, finalement, pour l'éternité, elle va surfer sur cette ambivalence de la nature humaine.
Je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle surfe surtout sur les attentes du public parce qu'elle est opportuniste, en fait, cette télévision-là. Elle, d'ailleurs, l'honnêteté de votre invité était, je trouve, exemplaire. Effectivement, on s'attend à ce que le téléspectateur, la téléspectatrice veuille regarder le programme et il faut du rêve pour ça. Et globalement, on reprend les mêmes recettes que la publicité, que aussi le monde de la fiction. Donc voilà, on met des physiques en avant, beaucoup. On mélange un peu avec des éléments de romance. Et puis, on prend quelques considérations sociétales aussi en considération pour que ça fasse bien. Et puis, parce que c'est aussi l'air du temps. Déjà, dans le loft, on sait mettre en avant le fait que voilà, c'est une jeunesse décomplexée qu'on n'a pas encore vue à l'écran. Voilà. Après, ça va être aussi le thème de l'homosexualité, par exemple, qui va s'imposer. Donc, elle est opportuniste, cette télé-réalité. Et elle sait très bien manier ces codes-là.
Oui, parce qu'il faut continuer de séduire les jeunes. Et ça, ce n'est pas si évident que cela, parce que les jeunes n'ont plus besoin des télé-réalités pour se mettre en scène eux-mêmes anonymement sur leur page Instagram. Et d'ailleurs, quand on fait des sondages, il y a près de 90% des jeunes qui disent qu'ils n'aimeraient pas du tout participer à une émission de télé-réalité. Ce qui a peut-être de quoi inquiéter les futurs producteurs d'émissions de télé-réalité. Loana, elle a lu votre livre « Sexisme Story ». Qu'est-ce qu'elle en a pensé ?
Je sais par interview qu'elle a dit qu'elle l'avait lu à moitié et qu'elle l'avait bien aimé. Donc voilà, c'est tout ce que je sais pour ce chapitre-là.
Merci en tout cas à vous tous. Paul Sansfourche, il faut vous lire parce que vous avez fait de cette Loana Petrucciani un sujet romanesque. « Sexisme Story » paru aux éditions du Seuil. Merci à vous Virginie Spies d'avoir été en ligne avec nous, spécialiste merci. Des médias audiovisuels à l'Université d'Avignon. Et puis merci à Luc Vaudoué, producteur de l'émission de télé-réalité béninoise qui est la plus belle. Lundi, 7 milliards de voisins, on cuisinera sur le continent africain, les 1000 façon de cuisiner la viande. Oui, la viande, c'est pas toujours politiquement correct. Et pourtant, il y a énormément de traditions autour de la viande sur le continent africain. Vous aurez la parole, bien évidemment, pour échanger des recettes comme chaque mois pour la cuisine au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, ce sera le journal. Ça sera juste après Anderson .Paak. De voisins sur RFI, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont disponibles, vous savez, en podcast sur les plateformes de téléchargement. À lundi.
Sept milliards de voisins, c'est fini.